Nous parlerons aujourd'hui de Saint Grégoire, dont on vient de fêter la fête il y a quelques jours, et qui fut vraiment le grand pape, on l'a dit, le dernier pape de l'Antiquité ou le premier du Moyen-Âge. En 555, le pape Vigile, une fois libéré par l'empereur Justinien, mourut pendant son retour à Rome. Justinien, l'empereur, avait désigné comme successeur à Vigile un certain Pélage, à la réputation plutôt sulfureuse, mais qui se montra quand même un bon pape. Notons à cette époque l'importance du choix de l'empereur dans la nomination des évêques et des papes. Nous verrons plus tard comment cette crise va se solder par un schisme. Nous sommes en plein césaropapisme. Dans ce contexte, on ne peut qu'admirer la sagesse de Dieu qui garda le pape en place de sortir de l'orthodoxie, quels que fussent ses antécédents et même ses mœurs, comme on le vit au XVe siècle avec les papes Borgia. On peut voir là une des preuves les plus manifestes de la sainteté de l'Église, du soin que Dieu a pour les hommes en dépit de leur folie. De fait, le pape Pélage Ier, après avoir juré solennellement qu'il n'était pour rien dans la mort de Vigile, a inauguré son règne en reconnaissant solennellement les conclusions des quatre derniers conciles, en particulier de celui de Chalcédoine. Il ajouta que s'il avait défendu les trois chapitres pendant 20 ans, il n'était alors que diacre, et que les trois chapitres n'étaient pas condamnés officiellement. Comme son prédécesseur Vigile, il se montra aussi orthodoxe que possible. Sitôt monté sur le trône de Saint-Pierre, Pélage Ier a cherché à mettre un peu d'ordre dans la nomination des évêques, qui, à l'époque, se faisait d'une manière que l'abbé Huvelin qualifie d'improvisée. Certains étaient passés dans la même journée de simples fidèles à clercs, lecteurs, diacres, prêtres et évêques. Ce fut le cas de saint Ambroise. Cela ne les empêchait pas toujours de retourner vivre dans un certain luxe, entourés de leur meute de chasse. Ce ne fut pas le cas de saint Ambroise. Dans la recherche d'un équilibre vis-à-vis du pouvoir de Constantinople de plus en plus pesant, Pélage Ier se rapprocha de la Gaule par l'intermédiaire du primat des Gaules, l'archevêque d'Arles, Saint Césaire. Saint Césaire s'est illustré dans ce poste. Un de ses successeurs, Pélage II, connut en 570 un désastre important, la conquête du nord de l'Italie par les Lombards. Cette conquête d'autant plus redoutable qu'il y avait parmi les Lombards des catholiques, mais aussi des païens et des ariens, aussi sauvages les uns que les autres. Constantinople était de plus en plus loin, affaibli par les guerres qu'il avait amenées à ses frontières, notamment avec les Perses, mais aussi avec les Bulgares et les Slaves qui l'envahissaient du nord. Pélage II fut un pape excellent. On a dit de lui qu'il était Saint-Pierre doublé de Saint-Jean. En 578, on envoya comme nonce à Constantinople un homme jeune, dont on attendait beaucoup. Il avait été élevé dans un monastère, avait fait des études de droit et fut préfet de Rome avant d'entamer une carrière politique. Attiré par la vie monastique, il vendit tous ses biens avant de se faire bénédictin. Il devait devenir le pape Saint Grégoire Ier. Grégoire le Grand, celui dont on a dit qu'il avait été le dernier pape de l'Antiquité et le premier du Moyen-Âge. Il était nourri de la Sainte Écriture. Il était d'une grande bonté. Il inspirait de la sympathie, même à ses ennemis. Il fut un grand apôtre du respect et du sens du devoir. On en aurait bien besoin aujourd'hui. C'était un homme humble. Dans les hérétiques, il ne voyait pas des ennemis, mais des âmes qu'il faut sauver. Il avait écrit à l'empereur Maurice, un des successeurs de Justinien, « Il ne faut pas agir avec ses ennemis comme avec des bêtes que l'on traque, mais comme avec des âmes qu'il faut sauver. » L'Empire grec ne protégeait plus l'Italie, il n'était plus qu'une ombre lourde à supporter, car les impôts étaient de plus en plus pesants. C'est le cas de tous les empires en fin de vie, l'Égyptien, le Romain, la royauté française. J'arrête là la liste, mais on pourrait la continuer. Les généraux prenaient leurs devoirs comme on gère les entreprises. Aussi, le rapprochement avec les Francs se vit-il de plus en plus étroit. 2 siècles plus tard, c'était le couronnement de Charlemagne. Grégoire vit avec joie la conversion depuis l'arianisme de Récared, roi d'Espagne. Malheureusement, la situation en Occident était toujours instable et 60 ans plus tard, l'Espagne retomba dans un désordre général. Un prince révolté crut même intelligent, un siècle plus tard, de demander l'aide des Berbères en 710. Un an plus tard, c'était la grande invasion musulmane. Là encore, on ne peut que se remémorer l'erreur fréquente de ces factions qui demandent une ère étrangère contre leurs cousins et qui se terminera par leur esclavagiste, par leur esclavage. Pardon. Les Spartiates avaient demandé l'aide de la Perse, les Helvètes avaient demandé l'aide de Rome, et les frères Maccabées, celle des Romains, deux siècles à peine avant la destruction de Jérusalem. À l'époque, compte tenu des domaines barbares qui étaient souvent davantage une question d'impôts pour ne pas dire de tribut, le pape prédiait sur la part de l'Italie qui n'était pas soumise aux Lombards, c'est-à-dire une partie centrale, à l'exception de la Sicile et d'une ligne à l'extrême sud qui restait byzantine, d'une digue à l'extrême sud qui restait byzantine. Il dut en conséquence prendre également en charge la gestion économique de l'État, ce qui n'était pas le principal de ses soucis, mais ce dont il put s'acquitter avec conscience, bien qu'il le redoutât particulièrement. Grégoire a facilité l'expansion des bénédictins et fut appelé le docteur de l'humilité. C'est lui qui a revendiqué le titre de Servus Servorum, c'est-à-dire le serviteur des serviteurs de Dieu. Il recommandait à ses prédicateurs de s'exprimer directement et simplement. En prêchant, dit-il, nous privons les autres de ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous. Il faut donc être saint. Il recommandait aussi de ne pas enseigner tout d'abord l'ascétisme et le mystique, mais de n'aborder que des sujets clairs. Sans cela, ce serait ouvrir des puits où se perdraient et s'enterreraient ceux qu'il voudrait instruire. Il avait un sens pratique aigu. Tout en reconnaissant les bienfaits de la vie monastique, il a dit, la sainteté ne consiste pas à jeûner. C'est une grande vertu d'entrer dans la joie des autres. Cela nous rapproche de la vie active, plus nécessaire que la vie contemplative. On pense à Saint Joseph. On ne peut se sauver sans contemplation, mais il est impossible de se sauver sans action. Il a dit également, je ne me défierai pas d'un mystique, mais je me méfierai de celui à qui les petites choses paraîtraient grandes et les grandes petites. Plusieurs de ces remarques font penser au pape François qui vient d'être élu, qui est très près du peuple et des choses matérielles à réaliser immédiatement. Serait-il comme Saint Grégoire le fut, le pape François serait-il comme Saint Grégoire le fut, le premier pape d'une nouvelle époque? Des obsédés de l'Apocalypse diraient le premier pape de l'Église de Philadelphie. Mais ce sont là des propos d'après-boire. Le pape doit rester notre berger indépendamment de toutes les lucubrations fantaisistes et prétendues divinatoires. Au point de vue liturgique, Saint Grégoire ajoutait au canon de la messe cette phrase « Avec bienveillance, disposez, Seigneur, dans votre paix les jours de notre vie et veuillez nous arracher à l'éternelle damnation et nous compter au nombre de vos élus. » Nous devons également à Saint Grégoire l'alternance du Kyrie eleison et du Christe eleison. Il introduit l'Alléluia après le graduel. Par l'installation de la Schola Cantorum, il a développé la psalmodie sacrée. Les cantiques byzantins héritiers des mélodies judaïques ont été adaptés au gosier franc plus économe en fioritures, en agrément comme on dit en musique. Même si ce n'est pas rigoureusement à Saint Grégoire que l'on doit le chant grégorien, c'est sous son patronage qu'est né ce trésor liturgique qui a rythmé et soutenu les prières pendant plus de 1000 ans. Les derniers papes, en particulier Benoît XVI, ont insisté pour ne pas jeter au panier un tel trésor. Saint Grégoire était très attaché aux fins dernières et à l'appel permanent de l'amour de Dieu. Il fut gravement malade à la fin de sa vie. Dans l'amertume de la vie présente, il proclamait le bonheur du ciel. En bref, il a tout fait pour remettre à sa place, c'est-à-dire à la première, l'amour de Dieu et du prochain, et cela à une époque de brutalité et de crise qui ressemblerait peut-être un peu à la nôtre. La nouvelle vigueur donnée à la liturgie fortifia la présence de l'Église en ce monde. Prédicateur de la miséricorde en temps de violence, il fut décidément un pape exceptionnel. Son grand succès fut la conversion de l'Angleterre. Les grandes invasions sont aussi venues par mer. Des vagues scandinaves ont déferlé sur les îles britanniques, massacrant et réduisant en esclavage les populations celtes qui se réfugiaient soit dans les parties montagneuses, l'Écosse et le Pays de Galles, soit en Irlande, qui était restée un peu à l'écart, soit en traversant la mer, en Armorique, qui fut en quelque sorte receltisée. Si on parle breton à Quimper, c'est à l'invasion des Angles et des Saxons qu'on le doit. L'ex-empire romain ne jouait plus aucun rôle dans cette partie du monde. Comme dans toutes les guerres de l'époque, certains combattants étaient faits prisonniers afin d'être vendus comme esclaves. Saint Grégoire posa sur eux un regard de charité et leur dépêcha un certain Augustin pour que les Angles deviennent des anges. Les premiers missionnaires s'établirent dans un monastère avec cette recommandation de Saint Grégoire : ne demandez jamais aux autres ce que vous ne pourriez faire. Ne les chargez pas d'un fardeau que vous ne pourriez porter vous-même. Rapidement, le christianisme fut connu des Anglo-Saxons à côté de la religion des druides. Il ne fut pas l'objet d'un rejet absolu. Des moines demandèrent à parler à l'un de leurs rois, qui répondit, pourrait-on dire avec courtoisie, « Nous ne vous empêcherons pas de prêcher votre religion, mais nous ne vous aiderons pas. » Il faut dire que les moines avaient adopté la méthode douce préconisée par Saint Grégoire, vivant paisiblement de leur travail et donnant l'exemple d'une vie modeste et calme. Le résultat fut excellent. Comme en Irlande 200 ans plus tôt et en Islande 500 ans plus tard, la conversion se fit sans martyr à l'origine. Il y en eut plus tard, parfois entre chrétiens comme Thomas Becket ou Thomas More, mais non pas au début de l'évangélisation. Ce sont des cas pratiquement uniques dans la chrétienté. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne rentrée et puis la prochaine fois, nous étudierons la période si dramatique qui s'est terminé par le schisme de l'Orient et de l'Occident, mais qui est ce qui a pris quand même 3 ou 4 siècles. Bon, voilà, et bien au revoir et bonne rentrée.